Les infos.
Alors qu'un cessez-le-feu a été conclu avant-hier entre Israël et le Hezbollah libanais, un avion de chasse israélien a visé une installation du Hezbollah dans le sud du Liban. Le Hezbollah, que la Suisse ne veut pas pour l'instant interdire en Suisse, car l'organisation ne répond pas à toutes les conditions de la législation helvétique. X, Facebook, Instagram ou encore TikTok ne pourront plus être accessibles aux jeunes de moins de 16 ans en Australie, premier pays à instaurer une telle mesure. En Suisse, le CHUV a une nouvelle directrice à sa tête, élue par le Conseil d'État vaudois. Elle prendra ses fonctions l'année prochaine, en juin 2025. Vendredi 29 novembre, jour de Black Friday, avec de nombreux soldes attendus dans les commerces et en ligne, les consommateurs et consommatrices suisses ont le record des dépenses les plus élevées cette année lors de cet événement, d'après une étude. MeToo refait surface dans le 7e art. L'acteur français Gérard Darmon est accusé de comportements inappropriés et de violences sexuelles par 9 femmes. En tennis, la numéro 2 mondiale Iga Swiatek a été suspendue un mois après un contrôle antidopage, mais cet écart sportif ne serait pas intentionnel de la part de la joueuse. Malgré un début de match prometteur, le LHC s'est incliné 6-2 face à Davos hier soir.
Fréquence banane, la météo.
La météo de ce vendredi 29 novembre, le temps sera quelque peu nuageux en montagne en matinée, mais ça se dissipera au cours de la journée. Ailleurs, le temps sera assez ensoleillé, notez une bise faible à modérée sur le plateau. Au niveau des températures, moins 1 à 3 degrés au minimum ce matin, 5 à 8 degrés au maximum de la journée.
Bonjour et bienvenue à tous et à tous dans Café Kawa, votre émission d'actualité de 7h à 8h. Ici Adriano qui vous parle. Mais je ne suis pas votre animateur pour cette émission car notre animateur Antoine a raté le bus. Mais c'est pas grave, the show must go on comme on dit. Donc au programme, aujourd'hui on va commencer par un journal présenté par Justin, notre chroniqueur.
Bonjour.
Ensuite, on va faire la revue de presse présentée par moi-même. Ensuite, espérons-le, Antoine sera de retour pour présenter l'Info Campus. Ensuite, ce sera Soki qui va présenter l'agenda.
Bonjour.
Ensuite, on va faire une petite discussion autour des IA. Voilà, ça va. Une petite discussion tranquille, voilà. Ensuite, on va finir sur une chronique libre de Antoine et une chronique libre de Soki. Mais tout d'abord, une petite pause musicale.
Fréquence banane, le journal.
On commence ce journal avec l'actualité du Proche-Orient.
L'accord de cessez-le-feu entré en vigueur il y a 2 jours, mercredi matin, entre Israël et le Hezbollah aura été de courte durée puisque le Liban accuse Israël d'avoir violé à plusieurs reprises cet accord. Hier, Israël revendiquait en effet une frappe aérienne contre un entrepôt de roquettes du Hezbollah au sud du Liban. Un avion militaire a visé une zone de forêt interdite aux civils. L'armée israélienne s'est défendue, expliquant avoir repéré une activité terroriste à cet endroit.
Le Hezbollah que la Suisse ne veut d'ailleurs pas interdire en Suisse.
A la différence du Hamas, le Conseil fédéral a estimé que cette force paramilitaire et politique au Liban ne devait pas être interdite sur notre territoire. N'étant ni interdit ni sanctionné pour l'instant par les Nations Unies, le gouvernement estime que les conditions d'une interdiction ne sont pas remplies pour répondre aux conditions de l'article 74 de la loi de 2015 sur le renseignement, ce qui écarte donc cette voie légale. Des débats se poursuivent à la session d'hiver qui débute la semaine prochaine, où le Parlement se penchera aussi sur le projet de loi visant à interdire le Hamas.
Le Parlement australien a interdit hier l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans.
Pour la première fois, un pays met en place cette mesure stricte. Le Parlement australien a approuvé hier une législation interdisant l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans pour des plateformes comme X, TikTok, Instagram ou Facebook. En amont du vote, Anthony Albanese, Premier ministre de centre-gauche, a déclaré que les réseaux sociaux étaient, je cite, « une plateforme favorisant la pression sociale, une source d'anxiété, un canal pour les escrocs et, pire que tout, un outil pour les prédateurs en ligne. Si cette loi n'est pas respectée, des amendes jusqu'à 50 millions de dollars australiens seront exigées. »
Dans l'actualité régionale, le CHUV aura une nouvelle directrice.
Claire Charmet sera la nouvelle directrice générale du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois. Le Conseil d'État vaudois l'a nommée ce jeudi et elle prendra ses fonctions le 1er juin 2025. Cette Française, âgée de 41 ans, est forte de 15 ans d'expérience dans la gestion des hôpitaux et préside actuellement le Collège des directions du réseau hospitalier neuchâtelois en alternance. Le recrutement a démarré dès la rentrée de septembre et a été mené par une commission dirigée par l'ex-conseiller d'État Philippe Lebas, qui relève que le dossier de Claire Charmet a notamment été retenu pour ses qualités managériales incontestables.
Nous sommes le dernier vendredi du mois de novembre, un jour qui marque le Black Friday.
Une journée de prix cassés va se tenir dans bon nombre de commerces du monde aujourd'hui à l'occasion de cet événement commercial qui dure parfois jusqu'au week-end, voire des semaines, Black Week, comme elle s'appelle. L'occasion de faire des bonnes affaires, quitte à céder parfois à certains achats impulsifs. Les Suisses et Suissesses seront capables de dépenser jusqu'à près de 500 francs cette année. Comme l'apprenaient mardi les journaux alémaniques Basler Zeitung, Berner Zeitung, Le Bund et le Tagesanzeiger, citant une étude du Boston Consulting Group.
Des accusations de violences sexistes et sexuelles dans le monde du cinéma.
9 femmes accusent l'acteur français Gérard Darmon de comportements inappropriés et de violences sexistes et sexuelles qui se seraient déroulées au cours de tournage entre l'année 2018 et l'été dernier. L'intéressé nie en bloc ces accusations et aucune plainte n'a été déposée pour l'heure. Une toute puissance du comédien de 76 ans est dénoncée par les victimes présumées qui sont toutes âgées de moins de 30 ans et travaillent dans la production cinématographique.
Et on termine avec l'actualité sportive où le tennis a connu un revers.
La Polonaise Iga Świątek, numéro 2 mondiale et lauréate de 5 tournois du Grand Chelem, a été sanctionnée d'un mois de suspension suite au résultat positif d'un test antidopage effectué hors compétition en août dernier, a indiqué l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis. Il s'agit d'une substance interdite pour le cœur, la trimetazidine, plus connue sous le nom de TMZ. Le communiqué relève toutefois que l'hypothèse retenue est celle d'une contamination d'un médicament et que la responsabilité de la joueuse de 23 ans est très faible.
En hockey sur glace, les Lions lausannois ont connu une défaite hier soir.
Ils ont été battus à domicile par le HC Davos 2-6 en National League. Ils avaient pourtant bien commencé en ouvrant le score après 49 secondes avec un but de Fabian Elder. C'est la deuxième fois de la saison que les joueurs de Jeff Ward essuient 2 défaites de rang cette saison. Le LHC passe désormais à la 3e place du classement.
Fréquence Banane, la revue de presse.
Rebonjour, voilà, je suis enfin arrivé. J'ai eu un problème de bus, un bus qui est parti une minute en avance, ce qui est assez rare pour être souligné, mais c'était le cas. On passe à la revue de presse avec Adriano qui revient pour nous sur un procès ultra médiatisé en France.
Vous avez sûrement entendu parler de, pour certains, l'affaire de la décennie, le procès des viols de Matzane qui oppose Gisèle Pélicot et son ex-mari Dominique Pélicot. Pour rappel, pendant 10 ans, Monsieur Pélicot a violé, drogué et livré son ex-conjointe à une cinquantaine d'hommes rencontrés sur Internet. Ce mercredi 27 novembre signe la fin du réquisitoire de l'accusation. Elle y demande une peine allant de 4 à 18 ans de réclusion criminelle pour les co-accusés et 20 ans de prison, soit la peine maximale pour Dominique Pélicot.
Pour ceux qui ne le savent pas, le réquisitoire est l'étape précédant la délibération de la cour. Il a pour but de présenter l'analyse des faits, d'apprécier les preuves et de formuler une demande de sanction à l'encontre de l'accusé. Mais comment a réagi la défense ?
Eh bien, comme le titre, la RTS, c'est une demande de pardon de la part de la défense, même si l'avocate de Dominique Pélicot, Madame Béatrice Zavaro, rappelle, malgré un verdict attendu en décembre et des réquisitions sévères, la double facette de l'accusé. Je cite, un bon mari et père, mais marqué par un passé traumatique. Ayant vécu une enfance avec un père tyrannique et des violences sexuelles subies dès 9 ans, elle refute aussi un rôle de chef d'orchestre et demande une peine en deçà des 20 ans requis. Finalement, elle termine par une demande de pardon à Gisèle Pélicot.
Est-ce habituel d'avoir des réquisitoires avec des demandes de peine aussi lourdes pour des crimes sexuels ?
À vrai dire, non. Selon les chiffres de Le Temps, la moyenne générale des condamnations pour viol en France était de 11,1 ans en 2022. certaines personnes de la défense trouvent ces demandes ahurissantes et hors de proportion. Également, elles ont reproché au parquet d'avoir requis sous l'influence de l'opinion publique. Cependant, il est bon de rappeler que, comme le précise Le Temps, Gisèle Pellico s'est abstenue de prendre parole ce mercredi. Il cite une des deux avocates. Il est important que le processus judiciaire soit respecté et Madame Pellico y tient particulièrement. C'est pourquoi elle ne formulera aucun commentaire sur les peines, aucun commentaire, aucun avis sur ses réquisitions. De plus, cette volonté de montrer l'exemple et d'être un espoir pour les victimes de violences sexuelles est complètement assumée de la part de l'accusation. On peut voir ça quand le 24h cite Laure Chabot, l'une des deux représentants du ministère public à la cour criminelle de Vaucluse à Avignon, avec votre verdict. Vous signifierez que le viol ordinaire n'existe pas, que le viol accidentel ou involontaire n'existe pas. Vous délivrez un message d'espoir aux victimes de violences sexuelles. Vous rendrez une part de son humanité volée à Gisèle Pellico.
Et Adriano, ce procès va-t-il avoir des répercussions en France ou à l'international ?
Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme le Figaro le dit, le procès a un écho bien au-delà des frontières françaises, avec une couverture en quasi-mondovisio, avec 138 médias accrédités, dont 57 étrangers, même Fréquence Banane, hein. Mais nous ne pouvons qu'espérer que ça a un impact à l'avenir. Bon, je sais à quel point ce sujet est particulièrement lourd, c'est pourquoi il est temps que nous fassions une petite pause musicale. Maintenant, le dernier single de Stromae et Pomme pour la nouvelle saison d'Arcane, c'est tout de suite.
Fréquence Banane, l'info campus.
Voilà, c'était Ma meilleure ennemie de Stromae et Pomme, chanson qui, je précise, a battu le record du nombre d'écoutes en 24 heures sur Spotify pour une chanson en français. Il est 7h22 sur Fréquence Banane, vous écoutez toujours le Café Kawa des bananes scotchées. C'est parti pour l'info campus de ce vendredi 29 novembre. On commence avec une conférence organisée par l'EPFL, Cartooning for Science, une conférence qui discute du rapport entre le dessin de presse et la recherche scientifique. Ce sera le lundi 2 décembre à 17h au Swiss Tech Convention Center. À noter aussi la présence de l'illustre dessinateur Patrick Chapat. On enchaîne avec un tournoi de basket 3x3 organisé par l'association AG Poly, un tournoi qui aura lieu ce dimanche 1er décembre de midi à 18h30 au centre sportif. Vous devez être une équipe de 4 pour participer, mais si vous êtes seul, pas de soucis, l'AG Poly vous trouvera des coéquipiers ou coéquipières. Mais dépêchez-vous, le dernier délai des inscriptions est aujourd'hui. Les chalets de l'Avent de l'AG Poly toujours sont de retour. Tous les jours du mois de décembre sur l'esplanade de l'EPFL, une association tiendra un petit chalet de Noël dans lequel vous pourrez vous réchauffer, vous sustenter ou boire un thé chaud, idéal pour occuper votre pause de midi ou votre soirée. Notez dans vos agendas, Fréquence Banane tiendra un chalet ce mardi 3 décembre entre 18h et 22h. Allez, on traverse l'avenue François-Alphonse Forel et on part du côté de l'UNIL, avec cette pièce de théâtre à l'affiche de la Grange, Iku, c'est son nom, un spectacle qui parle des Ikikomori, ces adolescents japonais qui s'isolent de toute vie sociale, avec une mise en scène originale au programme. Trois comédiens et comédiennes jouent en direct du Japon, tandis qu'une comédienne est en chair et en os à écu blanc. Les quatre interagiront ensemble par écran interposé. Cette pièce sera jouée le jeudi 5 et le vendredi 6 décembre, 10 francs l'entrée au tarif étudiant. Et si vous vous ennuyez, je vous rappelle la tenue de l'exposition Docteur Mussolini, un passé sensible, dans le bâtiment Entrepôt, à côté de l'auditoire 1031. Pour rappel, l'UNIL avait décerné en 1937 un doctorat honoris causa à Benito Mussolini, père du fascisme, une expo qui revient sur le contexte historique et politique de cette décision ainsi que sur les débats qu'elle suscite et qu'elle a suscité depuis plus de 80 ans. Pour finir, ce mercredi et jeudi, c'est aussi les journées découvertes pour les gymnasiens et gymnasiennes, alors faites leur bon accueil si vous en voyez errer dans les couloirs. Voilà, c'était tout pour l'Info Campus. Sans transition, on écoute maintenant sur Fréquence Banane Popula, célèbre chanson tirée de la comédie musicale Wicked, comédie musicale qui fait l'actu puisque sa version cinéma sort ce mercredi avec Cynthia Erivo, Ariana Grande et Jeff Goldblum. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, you're beautiful, so it's very shrewd to be very
very, very popular, like me.
Mais qu'est-ce qui se passe en ville ?
L'agenda !
L'agenda !
L'agenda !
L'agenda !
Nous plongeons aujourd'hui dans l'esprit des fêtes avec une série d'événements magiques qui illuminent Genève, Morges et ses environs. Préparez-vous à découvrir une ambiance chaleureuse et festive au cœur de notre belle ville. Commençons notre tour par le marché de Noël de Lausanne, un incontournable qui célèbre sa 10e édition. Ce marché transformera le centre-ville en un monde féerique. Avec plus de 100 exposants, vous pourrez y dénicher des cadeaux artisanaux d'une grande variété, tout en savourant de délicieuses spécialités locales, comme du vin chaud et des mets savoureux. N'oubliez pas de participer à la grande roue qui vous offrira une vue imprenable sur la ville illuminée. Ensuite, direction le marché de Noël de Morges, situé dans le cadre enchanteur du château. Ici, vous aurez l'occasion de flâner parmi des chalets pittoresques, regorgeant de produits artisanaux. En plus de la boutique, profitez de l'ambiance festive créée par les illuminations colorées et les animations pour petits et grands. Un moment idéal pour rassembler la famille et créer des souvenirs inoubliables. Et comme l'Antoine l'a dit, il y a les chalets de l'Avent de la Gépoli du 2 au 20 décembre. Ces chalets seront montés à l'EPFL devant l'esplanade et seront ouverts midi et soir. Je pense que c'est une merveilleuse opportunité de se mettre ensemble et de boire un bon vin chaud. Allons-y à Genève et parlons de Noël au quai, un événement majestueux qui se déroule sur le quai du Mont-Blanc. Après avoir enchanté le public au parc des Bastillons et au jardin anglais, avec une grande sélection d'artisans régionaux, profitez d'une belle balade le long du lac Léman, illuminée par des décorations féeriques. Ne manquez pas les chalets à fondue, où vous pourrez déguster la fameuse fondue genevoise, un délice incontournable des fêtes. De plus, je vous invite au marché de Noël du Mont-Blanc, juste à côté de la gare de Cornavin. Ce marché vous offre un assortiment diversifié de produits artisanaux et locaux. L'atmosphère festive est promise avec des chalets accueillants, illuminés de couleurs pétillantes, plongeant ainsi dans la magie de Noël qui nous entoure. Enfin, il y a le film Les Boules de Noël, qui est sorti le 27 novembre, dont cette semaine. Les Boules de Noël racontent l'histoire de Nathalie, qui, fatiguée des désastres de Noël passé, décide de ne pas célébrer cette année. Son mari Antonin et leurs enfants insistent pour redonner vie à la fête en invitant Nicole, la sœur de Nathalie. Cela pourrait les aider à surmonter les malheurs familiaux tout en explorant les thèmes de la réconciliation et des liens familiaux durant les fêtes. Voilà, chers auditeurs, un aperçu des événements qui rendront cette saison des fêtes vraiment spéciales à Genève, Lausanne et à Morges. Que ce soit en flânant parmi les chalets, en goûtant de délicieuses spécialités ou en partageant des moments en famille, il y a tant de façons de célébrer et de créer ces souvenirs magiques. Je vais finir avec un morceau de Nuzabes, Lady Brown.
Elles étaient encore de l'ordre de la science-fiction il y a 10 ans, mais depuis quelques années, elles ont fait une entrée fracassante dans la société civile, les intelligences artificielles. Elles s'invitent partout, dans les entreprises, dans la création artistique, dans la santé ou encore sur les bancs d'école ou d'université. Non. Le sujet des IA étant assez vaste, c'est le sujet qu'on a choisi de traiter aujourd'hui, plus précisément le rapport entre nous, étudiants et étudiantes, avec les chatbot, ChatGPT, le fameux en tête. Alors, je vais ouvrir cette discussion avec une petite anecdote personnelle. Quand ChatGPT est arrivé, c'était en décembre 2022, je venais à ce moment-là de rendre mon travail de maturité pour tester ChatGPT. Donc j'avais écrit exactement ma problématique de mon travail de matu et il m'avait répondu, fait une réponse de plusieurs paragraphes, exactement mon travail que j'avais passé un an à peaufiner. Et là, je me suis dit qu'on était tous foutus. Donc, ce qui me permet d'introduire le débat, vous, dans le cadre scolaire ou étudiantin, quel était votre premier rapport à l'intelligence artificielle ?
Eh bien, moi, j'ai tout de suite compris qu'il fallait pas trop... j'ai pas fait de zèle avec ChatGPT, par exemple. Parce que moi, par exemple, pour mon TM, j'avais un prof d'informatique qui suivait, justement, les news de ChatGPT et tout. Et du coup, on a eu une très, très longue discussion sur le fait que si, par malheur, j'utilisais ChatGPT, il allait me cramer directement. Donc, je l'ai pas vraiment utilisé pour mes années de gymnase. Mais par exemple, là, à l'université, j'utilise pas mal ChatGPT. Par exemple, pour des cours d'informatique... notamment du code ou des trucs comme ça, c'est assez pratique en fait, juste de donner son code demander à ChatGPT qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce qui ne va pas dans mon code, pourquoi ça ne marche pas, et il nous explique très bien ce qui ne va pas et nous aide à nous améliorer.
Moi, alors, je sais en tout cas que j'étais assez contre et assez réticent à utiliser ce genre de programme quand c'est arrivé. En tout cas, au début, enfin, il y avait un côté que je trouvais très, je sais pas, pas terrifiant, mais un peu déroutant, comme ça, de poser une question, puis de voir un texte et des lignes comme ça qui viennent et tout en dessous, comme ça. Donc, je voulais vraiment pas utiliser ça, mais je pense un peu par fierté, je sais pas, où je me disais, non, mais quand même, c'est une régression, régression de la pensée, c'est pas, voilà. Et bah, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai regardé un petit peu des fois pour... chercher une info, mais un petit peu générale, juste pour être sûr d'avoir peut-être compris une notion, ou des fois ça donne quelques idées, ou des fois pour des reformulations, je trouve que ça peut aider. Après, évidemment, il faut toujours être sensible au fait qu'il faut croiser les infos, voilà, c'est pas une chance exacte non plus tout le temps.
Et pour moi, c'était au lycée. En fait, au lycée, j'étais pas très intéressé dans la matière de la littérature et de l'histoire géo. Il fallait faire des rédactions et j'étais là, voilà, je le balance.
Le bon plan.
Voilà. Et pour le bac, je l'ai mémorisé les plans qui étaient sortis comme ça.
Ah ouais.
Ah. Et ça marchait. Et maintenant, pour les études de l'ingénierie que je fais, ça aide pour les codes, ça c'est vrai. Mais pour les calculs et tout, il a encore un peu d'humain, je pense.
Mm-hmm. Ouais. Ça me permet aussi de rebondir pour vous demander... un exemple de comment vous avez utilisé ChatGPT dans vos études. Alors je vais parler de mon expérience en histoire géo. C'est vrai qu'au gymnase, je devais faire un exposé sur l'épisode du Bloody Sunday. Oui, cet épisode de la guerre en Irlande du Nord dans les années 70. Et j'ai demandé à ChatGPT, ok, résume-moi le conflit nord-irlandais. Et il m'a résumé ça et j'ai gagné peut-être des heures à me renseigner. Alors que vraiment, j'avais juste un contexte, juste dont ce que j'avais besoin. Que quelqu'un d'autre, une anecdote ou un événement comme ça, où ChatGPT lui a save the day, on va dire.
Alors moi, personnellement, j'aurais un exemple à peu près similaire. C'est qu'en fait, je devais faire un projet. J'avais un projet à rendre pour l'université. Et c'était sur un article que je devais notamment donner mon avis, déconstruire un peu cet article. Et du coup, je l'ai lu, sauf que je l'ai oublié, parce que je suis un très mauvais lecteur. Mais heureusement que ChatGPT, en fait, je l'ai juste donné le texte et je lui ai demandé « Résume-moi en tant de points les points forts, les points faibles du texte. » Et en fait, il m'a juste pré-mâché le travail, du coup, j'avais plus qu'à écrire, en fait. Ça, c'était vraiment très, très pratique.
Bah, pour moi, c'est en histoire d'un ami. Au lycée, il avait un travail qui s'appelle « L'article de la semaine ». Chaque semaine, il devait lire un article, après il devait écrire une dissertation sur cet article-là. Mais tu vois, chaque semaine, il faut faire ça et c'est un travail qui nécessite du temps. Mais comme ça, il utilisait ChatGPT comme ça. Mais il économisait pas mal de temps, je pense. 3 heures par semaine, quelque chose comme ça.
Moi, je n'ai pas personnellement un moment où ChatGPT, par exemple, ou une autre IA m'a vraiment sauvé le coup. Par contre, si tu parlais, Antoine, de travaux historiques, alors moi, ça m'intéressait. J'étais encore peut-être l'année dernière dans cet état d'esprit où je ne voulais pas, je ne sais pas pourquoi, avoir recours à ce genre de choses, à tel point que je demandais à d'autres, en fait, je demandais à des amis d'aller voir ou d'aller. Enfin voilà, je me renseignais un peu comme ça, et parce que je sais que j'avais une amie qui l'utilisait assez souvent, et puis je lui ai demandé une fois, j'ai voulu poser la question que je devais, la problématique en fait, où je vais poser une question de contexte historique sur le sujet que je devais faire pour un travail d'histoire, et là par contre c'était un travail sur l'histoire suisse, mais il m'a sorti une réponse que j'avais jamais vue dans... aucun livre, aucun article de tout ce que j'avais lu, il m'a sorti un angle avec une approche éthique alors qu'on parlait d'économie pure, enfin voilà, ça avait pas vraiment de sens, donc je me suis dit ok, c'est pas très convaincant, mais je sais que ça a pu sauver des gens. Par exemple, j'ai d'autres amis qui s'y sont pris des fois un petit peu tard et puis qui ont glissé dans la version payante de ChatGPT la thèse de la prof avec qui ils faisaient le travail, et ça les a bien aidés pour pour formuler une première approche du travail.
C'est vrai que ChatGPT, c'est un outil qui est vraiment pas mal pour un peu défricher le terrain,
oui.
Mais quand tu lui demandes des trucs très précis, il commence
à
vouloir te répondre, et voilà.
Ouais.
Et surtout, il faut sourcer, il faut croiser les informations. Mmh. Par exemple, je prends l'exemple d'un cours que t'as eu avec moi, Justin l'année passée, cours d'introduction à l'histoire, où le prof nous raconte une histoire comme quoi le président de la Confédération en 1917 s'est fait assassiner. Et moi, je me dis, ah, c'est bizarre, personne n'en a jamais entendu parler. Et il dit, ah, mais en fait, c'était une blague, c'était ChatGPT. Ah, personne ne s'en doutait, monsieur.
Non, je crois pire que ça, en fait, c'est qu'il a rentré dans l'intelligence artificielle de lui donner des informations sur un prétendu assassinat qu'il y aurait eu à l'époque contemporaine en Suisse. Et ChatGPT, justement, comme tu disais, Adriano, veut toujours absolument répondre quelque chose ou donner une réponse, et ben, il a commencé à développer toute une réponse, je crois que c'était ça, sur cet événement, alors qu'il n'avait historiquement jamais existé. Mais il donnait quand même quelques références d'auteurs, d'historiens suisses. Voilà, donc il y avait quand même un semblant de vraisemblable, mais c'était factuellement faux.
Moi, ça me fait penser à une anecdote où ça m'arrive, hein, je perds pas mal de temps, où des fois j'ai des longues discussions avec ChatGPT parce que j'ai oublié un artiste et du coup je lui fais un portrait ou un truc du genre et je lui dis tu pourrais me donner des noms d'artistes, comme ça je peux le retrouver. Et l'artiste que je cherchais, c'est un petit artiste indé qui avait participé à Nouvelle École. Il s'appelle Elion. Il est chauve blanc.
D'accord.
Et genre, vraiment, je lui disais, ouais, il a participé à Nouvelle École et tout. Il est chauve et blanc. Et à un moment, il m'a dit Booba. Bon, voilà. C'est pour vous dire à quel point il en avait marre de moi, là. Il voulait juste répondre à ma question.
Oui.
Merci. C'est vrai que quand on l'utilise, ChatGPT, on a toujours un petit peu honte.
Oui. Mm-hmm. Ah, quand même, ouais.
Moi j'ai pas mal honte parce que sur l'appli, en tout cas mobile, vous pouvez faire des appels avec lui.
Ah bon? Ah
ouais.
mais c'est vraiment un ami.
Ah ouais, non mais là ça devient terrifiant parce qu'il fait, il fait des tics de langage
non.
Très humains. Ouais, des fois il met du temps un peu à répondre en faisant « ouais machin ». Ou des fois même, ça m'a vraiment mis des frissons dans le dos, c'est genre il a mal prononcé un truc et il a fait « oh pardon ». C'est vraiment un comportement typiquement
vrai.
Humain. Et du coup... Juste, je tapais ma meilleure discussion avec lui, mais il y a un côté un peu terrifiant. Parce
ouais.
que vraiment, tu sens que c'est bizarre comme sensation. C'est pas naturel, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Non, il a des formules comme ça. Enfin, moi, je sais pas si vous êtes poli, entre guillemets, quand vous interagissez avec lui ou pas, mais moi, c'est vrai que des fois, peux-tu m'indiquer ou peux-tu me donner un exemple de... Et puis, il est toujours, bien sûr, point d'exclamation. Enfin, bon, il a une... Mais je sais pas, est-ce que vous êtes injonctif dans vos demandes ou est-ce que vous êtes poli?
Moi, je suis en tout cas très poli parce que j'ai appris que, bon, il faut pas être surpoli, mais sincèrement, les formules de politesse... augmente la précision des réponses.
C'est vrai?
Ouais, parce que en fait, ChatGPT du coup se met à chercher des trucs qui ont à peu près les mêmes formules que toi. Et donc, si tu parles de manière polie ou des trucs comme ça, bah, il va chercher des sources un peu plus sérieuses. Tandis que si on fait des abréviations ou des trucs comme ça, il va
oui, c'est vrai, ouais.
avoir tendance à chercher genre sur Twitter ou des trucs comme ça.
Moi, j'essaie un peu d'être poli. Surtout que quand dans 15 ans, quand les robots auront dominé le monde, on sera les premiers à y passer, les malpolis. Moi, j'aime beaucoup l'insulter. Parce qu'après, il me répond poliment et ça me fait beaucoup rire. Parce qu'il en faut peu pour rire. Je dis, ouais, ta réponse est nulle, espèce de gros nul. Oh, pardon, je voulais pas vous déranger. Excusez-moi. Bref.
C'est vrai que si tu le mets face à ces contradictions, il fait, pardon, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y avait de faux? Comme ça, je peux m'améliorer, des trucs comme ça.
D'ailleurs, je donne un petit conseil pour mes potoussures, mes gaffures, qui sont aussi en latin à la faculté de lettres. J'ai remarqué que ChatGPT était très bon en latin. Mais non seulement tu mets la phrase, mais non seulement il te la traduit, mais en plus il dit oui, alors confero, c'est un nom accusatif qui s'accorde avec le machin, là. Et presque plus besoin d'aller en cours. Ça fait un peu peur.
Si seulement. En tout cas, pour le latin, ça ne dérangerait pas.
Mais je crois qu'il est très bon en traduction. En tout cas, on me l'a recommandé aussi pour des travaux. Je crois qu'il est pas mal.
Pour conclure cette discussion... juste aussi finir avec un petit tour de table. Moi, j'ai beaucoup utilisé ChatGPT, pas forcément dans le cadre de mes études, mais surtout pour m'amuser. J'ai un peu tout testé ce qui était possible de faire. Du coup, j'ai l'impression d'entendre ChatGPT, de lire ChatGPT partout. et c'est le cas aussi pour toutes les autres IA, les dessins, les musiques, etc. Est-ce que ça vous le fait aussi?
D'avoir l'impression de le voir partout?
D'avoir l'impression que maintenant tout est de l'IA. Dès que vous lisez un truc, dès que vous entendez quelque
chose. Je sais pas. Bon, il y a beaucoup de choses qui se font. Après, il y a des. Là, on parle des côtés. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des bons côtés de l'IA qui nous rend service, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des. Ça a amené des progrès dans la santé, dans des choses comme ça. Des choses aussi plus futile, plus amusante qu'on peut faire avec. Après, j'ai pas l'impression que ce soit encore trop omniprésent dans mon quotidien, personnellement. Mais ouais.
Moi, c'est vrai qu'il y a un... En fait, je sais pas, parce que je traîne beaucoup sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça, et à force de voir des images générées par IA ou des trucs comme ça, on a vraiment cette impression de... En fait, ça fait l'œil, ça fait... Ça nous donne de l'expérience, ça nous permet vraiment de nous rendre compte que, en fait, un peu partout, on utilise de l'IA, quoi.
C'est vrai, on a parlé de l'IA côté cool, on n'a pas parlé de toutes les horribles choses qui peuvent se passer avec l'IA. Bref, mais merci pour cette discussion, c'est intéressant. Maintenant, on passe à Tyler, the Creator, pour Noid, je le prononce bien. Ce dimanche marque le début du mois de décembre et avec lui son cortège de traditions comme le calendrier de l'Avent, le Secret Santa, prendre 5 kilos et bien sûr les Wrapped. Alors non, je ne parle pas de ces faritas roulées avec du fromage Philadelphia et du saumon, mais bien du Spotify Wrapped. Mais oui, vous savez, ce moment où la plateforme suédoise de streaming vous balance un résumé de votre année musicale sous forme de petites vidéos rigolotes et goguenardes. Et là, on va apprendre des choses passionnantes, comme le nombre total de musiques qu'on a écoutées, le temps total qu'on a passé à le faire, quelle musique on a binge-listé en avril ou en novembre, ou encore quel est l'artiste qu'on a le plus écouté. Mais franchement, quel pied! Comment ai-je fait pour survivre une année entière sans ces données si fondamentales à mon épanouissement? Et tiens, en parlant d'épanouissement, voilà qu'elle débarque, les stories Instagram. Parce qu'évidemment, il est essentiel de partager cette grande introspection musicale avec tout le monde pour bien montrer à quel point on est original, unique et terriblement iconoclaste. Parce qu'on écoute ce groupe que personne ne connaît. Et tiens, ce n'est pas fini, ma boîte mail déborde maintenant d'autres récapitulatifs de l'année envoyés par des entreprises qui ont flairé le filon. Spotify a fait des émules, à la manière de Gizmo le Mogwai qui nourrit après minuit se multiplie en une armée de petits monstres. Et avec joie, je vais découvrir combien de temps j'ai joué sur ma Switch, j'ai passé de temps sur Steam, combien d'heures j'ai passé sur Twitch au lieu de réviser ou que sais-je d'autre. Merci les Big Data, franchement merci pour tout ce que vous faites pour nous. Quelle philanthropie, quel altruisme, quelle grandeur d'âme, ouais. Ou pas, hein. Et de nos jours, on accepte tacitement que toute notre vie, tous nos goûts, toutes nos données finissent stockées dans d'immenses serveurs planqués dans des sous-sols ultra refroidis quelque part dans le désert californien. Et nous, même si on est conscient du problème, on tourne la tête car c'est pénible d'y penser, un peu comme ce SDF qui dort dans le tunnel de la gare de Lausanne. Mais avec les Wrapped, Spotify et ses potes atteignent le comble du cynisme. Non seulement ils t'espionnent à grande échelle, mais ils en font carrément un spectacle et ils nous le présentent tout fièrement comme tes petits cousins présentent leur poésie éclatée Europa de Noël. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On entre dans leur jeu, on relaye, on partage, on en parle à tout le monde. Mais à quoi ça sert les Wrapped à part nous faire une piqûre de rappel qu'on est impuissant face aux GAFAM qui connaissent tout de nous, hein? Et une piqûre de crack apparemment, vu que nous, on leur tend le bras. Peut-être que je suis un peu ringard à ne pas accepter les irrémédiables avancées de notre monde, mais je regrette un peu cette époque où on pouvait jouer à la console, regarder un film ou écouter un album sans que ces instants de fun se retrouvent gravés pour l'éternité sous forme de 1 et de 0 dans un endroit qui pollue autant que 5 centrales de Tchernobyl réunies. Je dis ça, mais soyons honnêtes, demain je serai le premier à ouvrir mon Wrapped. J'aimerais bien arrêter de vendre mon âme au diable, mais que voulez-vous, c'est trop tentant. Moi aussi j'ai envie de savoir quel personnage de fiction suis-je selon mes goûts musicaux pour une raison qui m'échappe totalement. En 2023 j'étais un vampire, trop cool. Cela dit, quitte à accepter d'être complice de ce grand pillage de nos données, si on pouvait au moins se mettre d'accord pour arrêter de les partager sur des réseaux qui, ironiquement, les exploitent déjà, ce serait déjà un bon début. Et franchement, entre nous, tout le monde s'en fout que vous soyez dans le top 1% des auditeurs de Taylor Swift. C'était Drake Liability, la chronique de ceux qui...
Oh, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire pendant cette chronique, et j'ai juste choisi de présenter un musicien que j'aime bien, qui est Nuziabes. Nuziabes, de son vrai nom Yamada Jun, est né le 7 février 1974 à Tokyo. Il a commencé sa carrière dans le milieu de la musique à la fin des années 1990, et s'est rapidement fait connaître pour son style distinctif qui mélange jazz, hip-hop et musique électronique. En 2003, il a fondé son propre label Hideout Productions, où il a produit et collaboré avec de nombreux artistes de la scène underground. Sa musique est souvent caractérisée par des samples de jazz mélancoliques, des rythmes doux, créant une ambiance à la fois relaxante et inspirante. Quelquefois, à cause de Nuziabes, les prix des disques vinyles du sample original se sont augmentés significativement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un sample est un bout de morceau déjà existant, qui a été modifié pour faire un autre morceau. Ces morceaux tels que Feather et Lovesick Part 3 sont devenus emblématiques, touchant le cœur de nombreux mélomanes à travers le monde. Nuziabes a non seulement révolutionné le genre du hip-hop instrumental, mais il a également été une source d'inspiration pour de nombreux artistes. Son influence se ressent non seulement au Japon, mais aussi dans des pays comme les États-Unis, où ses morceaux sont souvent remixés et utilisés dans les vidéos de la culture urbaine. Mais son impact ne s'arrête pas là. Nuziabes a également participé à la bande originale de l'anime culte Samurai Champloo, ce qui a permis à sa musique de toucher un public encore plus large. Les compositions de Nuziabes ont apporté une profondeur émotionnelle à cette série, rendant les scènes encore plus mémorables. Malheureusement, Nuziabes nous a quittés trop tôt, en 2010, à cause d'un accident sur l'autoroute, mais son héritage perdure. Alors, chaque fois que vous entendez un beat jazzy accompagné d'un flow smooth, il se peut que cela soit l'esprit de Nuziabes qui continue de vivre à travers les générations d'artistes qu'il suit. La raison que j'aime bien Nuziabes est parce qu'il a totalement changé l'impression que j'avais de hip-hop. Avant lui, hip-hop me faisait penser à du rap violent qui parle de sa vie en tant qu'un gangster et tout. Mais ses morceaux étaient plutôt doux et les samples qui étaient utilisés ont changé l'expérience musicale. Chaque sample avait son propre ambiance. Je ne suis pas assez informé pour dire pourquoi je le sens de cette manière. C'est peut-être les fréquences qui sont presque pas audibles qui fait que chaque sample me fait sentir comme je suis dans un autre monde. Les bruits blancs, les sons ambiants des gens qui parlent, le son des chaises qui grincent, toutes ces subtilités et détails étaient très rafraîchissants pour moi. J'ai tellement de morceaux que je voudrais vous recommander, mais j'ai choisi 3 morceaux qui sont les plus emblématiques pour moi. D'abord, Arurian Dance, que vous aviez certainement dû l'entendre dans des reels d'Instagram qui utilisent comme sample le morceau The Lamp is Low de Lorinda Almeida. Puis Lovesick, qui utilise comme sample le morceau Minerva's Owl de Aki Takase. Enfin, Feather, qui utilise comme sample le morceau Love Theme from the Rope de Youssef Latif.
Merci Soki pour ta chronique, Nuziabes, qui, je précise, était la chanson qui a suivi ton agenda tout à l'heure. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, ça passe vite. Nous, la prochaine fois que vous pourrez nous retrouver, ce sera la semaine prochaine pour un Micropolis. En attendant également toute la semaine suivante, vous pouvez trouver les émissions des autres, Banane Verte, Café Kawa et Micropolis. Également, vous pourrez entendre sur Fréquence Banane un Cultura Pop ce soir entre 19h et 20h. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et tous autour de la table, mais aussi vous qui êtes chez vous. Il est 8h01, au revoir.
Fréquence Banane, les infos.
Alors qu'un cessez-le-feu a été conclu avant-hier entre Israël et le Hezbollah libanais, la trêve aura été de courte durée puisqu'un avion de chasse israélien a visé une installation du Hezbollah dans le sud du Liban hier. Le Hezbollah que la Suisse ne veut pas pour l'instant interdire en Suisse car elle ne répond pas à toutes les conditions de la législation helvétique. X, Facebook, Instagram ou encore TikTok ne pourront plus être accessibles aux jeunes de moins de 16 ans en Australie, premier pays à instaurer une telle mesure. En Suisse, le CHUV a une nouvelle directrice à sa tête, élue par le Conseil d'État vaudois. Elle prendra ses fonctions l'année prochaine, en juin 2025. Vendredi 29 novembre, jour de Black Friday, avec de nombreux soldes attendus dans les commerces et en ligne, les consommateurs et consommatrices suisses ont le record des dépenses les plus élevées cette année lors de cet événement, d'après une étude. MeToo refait surface dans le 7e art. L'acteur français Gérard Darmon est accusé de comportements inappropriés et de violences sexuelles par 9 femmes. Et en tennis, la numéro 2 mondiale Iga Swiatek a été suspendue un mois après un contrôle antidopage, mais cet écart sportif ne serait pas intentionnel de la part de la joueuse. Et en sport, en hockey sur glace, malgré un début de match prometteur, le LHC s'est incliné hier soir 6-2 face à Davos.
Fréquence banane, la météo.
La météo de ce vendredi 29 novembre, le temps sera quelque peu nuageux en montagne, en matinée au-dessus de 1000 mètres, mais ça se dissipera au cours de la journée. Ailleurs, le temps sera assez ensoleillé. Notez une bise faible à modérée sur le plateau. Au niveau des températures, ce sera moins 1 à 3 degrés au minimum ce matin, 5 à 8 degrés au maximum de la journée.